le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture en ce dimanche matin. Nous sommes le premier dimanche après Pâques. Donc aujourd'hui, nous allons parler de résurrection. La résurrection qui n'est pas une évidence à comprendre et à croire et qui suscite évidemment beaucoup de doutes. Pour parler de ce doute qui accompagne souvent la foi, nous allons aujourd'hui recevoir le pasteur Gérald Machabert, qui est pasteur de l'Église protestante unie de France et qui travaille pour la presse régionale protestante à Lyon. Bonjour Gérald.
Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs. Et puisque nous sommes dans le temps de Pâques, j'aurais pu dire Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, en grec ou en russe, comme le disent les orthodoxes, puisque c'est la salutation traditionnelle dans ce temps de Pâques.
Alors effectivement, c'est une salutation de circonstance, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu stéréotypée ?
C'est une autre occasion de dire bonjour et d'exprimer quelle est la source de ce bonjour pour les chrétiens. Savoir se réjouir simplement de la beauté du jour qui se lève et de la vie qui jaillit avec Pâques.
Vous voulez inciter nos auditeurs à se réjouir peut-être davantage ?
Peut-être que dans notre vie, on ne prend pas suffisamment le temps de se réjouir, on se laisse submerger par les préoccupations du quotidien.
Et pour les chrétiens, donc, cette joie de Pâques, cette louange, se trouve donc dans ce matin de Pâques.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le cœur de la foi chrétienne. Et j'espère que ce temps que nous allons partager permettra à chacun, justement, de prendre du temps pour cette réjouissance, cette louange. Et puis, c'est pourquoi je souhaitais commencer peut-être ce temps, ce matin, avec une prière de la communauté de Pomérol.
Je vous en prie.
Il est bon, Seigneur, de vivre avec toi, de redire ta beauté du matin jusqu'au soir. Fais-moi comprendre tes volontés, ouvre mon cœur à ta parole. Je me réjouis de tes promesses, joyeux comme celui qui découvre un trésor. Je louerai ton nom, Seigneur, par un chant, tu es grand et digne de louange. Que le ciel et la terre et toute créature acclament le Seigneur, gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse de ses œuvres.
Pour le jour, pour la nuit, les amis réunis, je voudrais chanter. Pour le soir, le matin, la clarté d'un refrain, je voudrais danser. Pour mamie, pour maman, pour la ronde des ans, je voudrais crier. En hiver, en été, sur ce joli sentier, je voudrais aimer. Pour la misère du riche, la richesse du pauvre, je voudrais crier.
Nous sommes avec le pasteur Gérald Machabert dans ce service protestant. Et aujourd'hui, nous allons lire un extrait de l'évangile de Jean, où il est question de Jésus ressuscité. Mais auparavant, vous avez souligné l'importance de la louange, Gérald, dans le monde chrétien, en particulier dans ce temps de Pâques. Mais la louange, c'est pas toujours facile à vivre, c'est pas une évidence en fait. Et on le verra même dans le texte, même les disciples ont du mal à se réjouir.
Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est pas évident, la vie parfois donne des coups de boutoir dans la joie, par la maladie, la mort, les inquiétudes aussi de notre existence, le chômage, la violence autour de soi ou dans notre pays, dans le monde. Et Pâques, c'est aussi la résurrection. Mais cette résurrection n'est pas garante d'une vie sans trouble, sans risque. C'est pas une simple joie béate sans fin. Et d'ailleurs, le récit que nous allons lire ce matin, qu'on trouve dans l'évangile selon Jean, dit toute la difficulté de saisir cet événement de Pâques, y compris pour les disciples, la première Pâque, le premier jour de Pâques.
Alors nous allons découvrir ce texte. Je vous propose de le lire dans la traduction « Parole de vie ». Donc c'est l'évangile de Jean, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient. Il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé la porte à clé. Jésus vient. Il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu ? Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants. Mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. Voilà donc cet extrait de l'évangile de Jean qui termine en fait l'évangile de Jean.
Oui, tout à fait. Et merci pour cette lecture. On a entendu dans ce récit toutes les difficultés qu'il y a pour ses disciples. D'abord, les disciples qui se tiennent enfermés dans une maison. Et pourtant, la bonne nouvelle de la résurrection du matin de Pâques a déjà dû se répandre parmi eux. Et puis, c'est ce passage aussi qui met en scène Thomas dans cette scène bien connue de Thomas qui demande à pouvoir toucher
celui
pour croire.
Qui veut voir pour croire.
Exactement.
Celui qui a besoin de preuves. Oui.
Si on suit l'évangile de Jean, en fait, c'est pas la première fois pourtant que le ressuscité apparaît à ses disciples. Au début du chapitre 20, là, Marie de Magdala va au tombeau pour rendre hommage à Jésus crucifié et mort, et elle constate que le tombeau est ouvert.
Ouais.
Elle vient rapporter ça aux disciples, et il y en a deux, Pierre et l'autre disciple, qui est qualifié de disciple bien-aimé, se rendent en courant jusqu'au tombeau pour constater de leurs propres yeux. Ils entrent dans le tombeau, ils voient qu'il est vide. Il est écrit que le disciple bien-aimé voit et croit, et pourtant les deux disciples retournent chez eux sans rien dire.
Mmh.
Et puis Marie de Magdala, elle, reste en arrière, elle voit des personnages dans le jardin, elle les prend pour des anges, et lorsqu'il la questionne, elle voit un homme qu'elle prend d'abord pour un jardinier avant de le reconnaître comme Jésus, justement, ressuscité.
Ouais.
Et par lui, elle est envoyée auprès des disciples pour porter cette bonne nouvelle de la résurrection. Alors on peut se dire que le soir même, même si Pierre et l'autre disciple n'ont rien dit, Marie de Magdala, elle, a bien porté la nouvelle aux autres.
Voilà.
Donc on pourrait se questionner pourquoi sont-ils enfermés.
Oui, et puis pourquoi ont-ils peur ? Et de quoi ont-ils peur ? Alors le texte nous donne un indice.
Oui, tout à fait. Il y a une raison dans le texte qu'on a entendu. On dit que les disciples ont peur des chefs des Juifs. Alors malheureusement, ce type de verset a fait des dégâts considérables dans l'histoire de l'Église, parce que ça a été l'occasion de nourrir une certaine haine à l'égard des Juifs. Mais
oui.
De manière plus terre-à-terre, au fond, les chefs des Juifs sont ceux qui ont fait condamner Jésus. Et il est assez normal que ses disciples aient peur à leur tour d'être arrêtés et persécutés. Et puis il y a peut-être des peurs plus fondamentales qui les habitent. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, pensant qu'il était le Messie, et il est mort. Alors sa mort signifie 2 choses pour eux. S'il était le Messie, ils l'ont abandonné. S'il n'est pas le Messie, alors ils se sont trompés. Ouais. Et cette mort vient révéler, au fond, pour eux, une peur. Peur du jugement de Dieu, peut-être, et la peur de découvrir qui ils sont. Eux qui ont trahi, abandonné, et découvrir de quoi ils sont capables, au fond.
Oui, ils ont cette peur, donc, depuis qu'ils sont sans Jésus. Une peur de ne pas avoir compris ce qui s'est passé, une peur de ne pas savoir comment réagir, une peur d'être, tout simplement, peut-être une peur qui peut rejoindre la peur qu'on peut avoir aujourd'hui de ne pas être à la hauteur de ce qu'on espère, de sa foi ou de la volonté de Dieu.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans les évangiles. Ils nous donnent les disciples comme des modèles à suivre, des exemples à suivre, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais au contraire parce qu'ils sont des hommes comme vous et moi, tout simplement. Ils sont humains, avec leurs enthousiasmes, mais aussi avec leur lâcheté, avec leurs forces et avec leurs imperfections. Et pourtant, c'est avec ces imperfections-là qu'ils sont appelés à être témoins. Témoins de l'évangile, de la bonne nouvelle, témoins de cette bonne nouvelle qui, ce jour de Pâques, signifie une vie triomphante, finalement. L'évangile de Jean, d'ailleurs, type de manière assez forte les disciples. Il y a Pierre, celui qui s'enflamme, qui s'enthousiasme, oui, mais qui trahit.
Oui.
Il y a le disciple que Jésus aimait, qui est toujours présent dans les moments charnières de l'évangile, qui croit, mais avec discrétion, qui garde les choses dans son cœur. Et puis il y a Thomas, qu'on a retrouvé dans ce récit, qui a toujours besoin de vérifier, d'être confirmé pour croire.
Voilà, alors ce fameux Thomas qui est très célèbre en fait, puisque c'est vrai qu'il a même, il est même à l'origine d'un proverbe, hein, « Je ne crois que ce que je vois ». Il a besoin de preuves, il est un peu comme nous, hein. Mais il est avec les disciples qui sont enfermés du fait de leur peur, mais les disciples semblent être pas condamné par Jésus, alors que Thomas, lui, Jésus lui, ce qu'il lui dit peut être pris un peu comme un reproche.
Oui, on lit souvent ce passage, cette phrase, arrête de douter et crois, ou dans une autre traduction, cesse d'être incrédule et crois, comme un reproche fait à Thomas, et même voilà, comme une condamnation de l'incrédulité, voire même du doute. Mais ce récit ne sert-il pas plutôt à valoriser ceux qui lisent l'évangile ?
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Cet évangile est le dernier à avoir été rédigé, ouais, à la fin du 1er siècle. Donc, ça fait plus de 60 ans que les événements se sont passés. Il n'y a plus de témoins directs, oui, des événements. Et au fond, les lecteurs de l'évangile se retrouvent dans la position dont parle Jésus, c'est-à-dire, ils ne voient pas. Et ils doivent croire. C'est heureux soient-ils. Et aujourd'hui, vous, Michel, moi, nos auditeurs, nous sommes dans cette position. Nous ne pouvons pas voir, mais nous sommes invités à croire.
Oui, mais alors on peut, comme Thomas, avoir des doutes. Et cette histoire, même 2000 ans, plus de 2000 ans après, paraît toujours aussi incroyable et aussi difficile à croire. On peut comprendre que certains aient du mal à croire.
Oui, c'est vrai, mais on oppose souvent le doute et la foi,
c'est
croire
ça,
et douter. Et pourtant, ces deux notions n'appartiennent pas au même niveau, au même plan. Le doute ne s'oppose pas à la foi, et même, il en est peut-être un élément constitutif.
Vous voulez dire qu'on peut croire même si on doute ?
Oui, c'est même plutôt sain, en fait. Le doute est de l'ordre du savoir. On doute de ce qu'on ne sait pas. Mais croire, c'est autre chose. Si je vous dis quelque chose et que vous me croyez, ce n'est pas parce que vous savez que ce que je vous dis est vrai, mais parce que vous accordez du crédit à moi et à ce que je vous dis.
Ouais.
Et au fait, vous avez foi, vous avez confiance en ce que je dis. Et d'ailleurs, c'est amusant dans la langue française de constater que crédit et croire ont la même racine, de même que foi et confiance. Douter, c'est donc ne pas savoir, ou comme dans une démarche scientifique, de choisir de ne pas savoir pour rentrer dans un processus de démonstration par le biais de l'expérience et de la preuve. Croire, c'est autre chose. Croire, c'est s'abandonner en confiance.
Je ne sais rien des jours qui viennent, des jours de peine ou bien de joie. Je mettrai ma main dans la tienne, quoi qu'il advienne, qui que tu sois. Je mettrai ta main dans la mienne, quoi qu'il advienne, pour chanter ça heureusement que tu es là, car autrement je ne saurais pas, car autrement nous ne saurions pas que tout a un sens ici-bas, que tout a un sens ici-bas, que tout a un sens ici-bas.
Vous êtes toujours à l'écoute du service protestant sur France Culture. Nous sommes avec le pasteur Gérald Machabert et nous abordons la question de la foi et du doute. Peut-on croire et douter en même temps? Gérald, vous nous dites que ces deux notions ne sont pas sur le même registre.
Oui, tout à fait. Et dans le récit que nous avons entendu de l'évangile de Jean, qui parle de Thomas qui demande à voir... c'est assez ambigu. On ne sait pas finalement si c'est de la résurrection dont doute Thomas véritablement, c'est-à-dire de la présence du Christ parmi ses disciples. En effet, ce qu'il demande à voir, c'est toutes les marques du supplice de Jésus.
C'est ça, oui.
Autrement dit, plutôt les preuves de la mort de Jésus que les preuves de sa résurrection.
Mais alors du coup, c'est un peu paradoxal parce que dans les évangiles, les disciples n'étaient pas présents au pied de la croix. En tout cas, on ne nous le raconte pas. Bon, ils savent quand même ce qui s'est passé. Mais Thomas, en plus des disciples, a besoin d'une preuve.
Oui, alors je ne répondrai pas à la place de Thomas pour dire pourquoi il a besoin d'une preuve. Je vous propose deux réflexions. La première, c'est que quand l'auteur de cet évangile rédige ce texte, il s'inscrit peut-être probablement déjà dans une polémique, un débat au sein du christianisme naissant. Cette histoire pose beaucoup de questions. En effet, comment croire que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même d'une certaine manière, ait pu mourir sur la croix? Il y a un courant du christianisme qui est marqué par ce qu'on appelle la gnose, c'est-à-dire une religion fondée sur l'idée qu'il y a une connaissance spécifique, particulière, secrète, qui n'est révélée qu'à des initiés.
D'accord.
Et cette gnose mettait en doute la mort de Jésus sur la croix. Soit qu'il ne soit pas vraiment mort, qu'on y ait cru, soit qu'il y ait eu une substitution entre un Jésus terrestre et puis un Christ céleste, soit que Jésus n'ait pas été vraiment un homme, mais juste un corps céleste, spirituel.
Ouais, finalement, c'est un débat qui continue de nos jours.
Ah oui, tout à fait. mais c'est bien ce qui est visé dans ce texte par l'Évangile, ce besoin de croire, de ce besoin de voir, de toucher. Ça me conduit à la deuxième réflexion. La foi en la résurrection n'évacue pas la réalité de la mort. Au contraire, elle la prend pleinement au sérieux. La vie nouvelle promise et donnée en Christ n'abolit pas la réalité de l'anéantissement total dans la mort. Et Thomas est confronté au stigmate de la crucifixion, à des mains percées, à un flanc blessé. Et les chrétiens, par la suite, sont invités eux-mêmes à ne pas se détourner de la réalité de la mort, de la présence du mal dans le monde, et de leur responsabilité aussi dans ce mal, ou de leur lâcheté face à ce mal. C'est cet appel que je vous invite à écouter dans une confession de foi écrite à partir d'un texte du théologien protestant André Gounel. Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre. Celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans ses défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout. Dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute et fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde.
Alors après cette confession de foi, finalement de cette expression de ce que l'on croit, Je voudrais revenir quand même sur le doute, parce que Jésus ne condamnait pas Thomas pour ses doutes, pour sa demande même de le voir, de le toucher, pour pouvoir croire. Mais vous nous dites que le doute est même carrément constitutif de la foi.
Oui, le doute me paraît nécessaire, dans une certaine mesure. Une foi qui ne doute pas s'érige en savoir, en certitude. D'une part, elle dénie aux autres le droit de croire autrement, et à l'extrême, elle cherche à détruire ces autres. Et d'autre part, elle ne peut reconnaître que l'expérience aille à son encontre, que le réel lui résiste, et à l'extrême, cela pourrait conduire même à la folie. La foi n'est pas une acceptation béate, elle se doit de réfléchir, elle doit questionner, elle doit oser formuler et reformuler, elle doit donc douter.
Donc vous nous dites, Gérald Machabert, que la foi et le doute sont intimement liés. Pouvez nous expliquer un peu plus ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est cette foi qui est en même temps de la confiance, alors qu'aujourd'hui la confiance n'est pas ce qui est le plus répandu dans nos sociétés.
Je crois que dans votre question, vous avez déjà tout dit, mais si on revient effectivement en arrière, la foi et le doute ne sont pas sur le même niveau. Je crois que vraiment le doute est du niveau du savoir et la foi du niveau de la confiance. Et la confiance, ça s'ancre dans la question de la relation à l'autre, finalement.
Oui, c'est ça.
Croire en une parole, c'est croire en celui qui énonce cette parole. C'est lui donner du crédit, c'est lui donner du poids. C'est s'accrocher quelque part à la relation qu'on a avec l'autre. Douter, c'est aller chercher la question de la preuve dans tout ce que l'autre pourrait dire. Mmh. Et donc là, on s'ancrerait beaucoup plus dans une sorte de véracité de la parole qu'il faudrait démontrer à tout prix. Mais vous voyez bien que dans la vie de tous les jours, lorsque vous communiquez avec vos proches, avec ceux que vous aimez, mais peut-être aussi avec ceux que vous n'aimez pas, mmh. on se situe dans un autre registre. On n'est pas dans « est-ce que ce que tu me dis est vrai, est prouvable, est démontrable ?» Mais on est dans une relation à laquelle on accorde du poids, du crédit, de la valeur.
Mais comment aujourd'hui ceux qui parlent de cette parole de Dieu, qui parlent de cette résurrection, peuvent être dignes de confiance pour ceux qui sont à l'extérieur des églises ou de cette culture biblique?
Alors, si la foi ne se démontre pas par des preuves, par des indices, par une démonstration, je pense que accorder du crédit, du poids, de la confiance à l'autre, c'est aussi voir les effets, les fruits que peuvent produire cette foi et cette confiance dans l'autre, simplement. On n'est pas dans l'ordre de la preuve. Regarder un chrétien, c'est pas la manière dont il vit qui vous apportera la preuve de sa foi. Et en même temps, il y a bien quelque chose en écho entre ce qu'il vous dit et la manière dont il le vit.
Vous voulez dire que c'est à chaque chrétien de rendre la parole de Dieu crédible?
Tout à fait. Crédible, crédit, donner du crédit, effectivement, voilà. On est dans ce domaine-là. Pour le chrétien, croire... à la fois, ça ne se démontre pas et pourtant, ça change tout dans sa vie. Et pour ceux qui, finalement, seraient interpellés par ce chrétien, par ce qu'il dit, par sa manière de vivre, il y a quelque chose de cet ordre-là, de constater la confiance dont se nourrit le chrétien pour vivre chaque jour, au-delà des aléas de la vie, au-delà des difficultés, au-delà des doutes, justement, qui peuvent l'assaillir et qui peuvent le nourrir, c'est de voir que la confiance est première.
La confiance est première, mais le doute subsiste pour, finalement, affermir cette foi.
Je ne sais pas s'il s'agit d'affermir ou de sans cesse...
Renouveler,
questionner, pour pouvoir dire à nouveau. Et puis, ce n'est pas une affirmation brute de décoffrage une fois pour toutes, c'est une affirmation qui se dit à chaque instant dans des circonstances particulières, à la fois pour celui qui dit cette parole... comme pour celui qui la reçoit.
Alors on dit depuis tout à l'heure que la foi et le doute sont dans une certaine mesure liés. Pourtant, Jésus dit à Thomas, arrête de douter et crois.
Oui, c'est vrai, mais quand on est dans une relation avec quelqu'un, c'est ce que je disais, on ne peut pas être dans le doute permanent à l'égard de ce que cette personne nous dit ou de cette personne elle-même.
C'est ça.
Il y a un moment donné où il faut s'engager. S'engager dans la vie, s'engager dans sa foi. Il faut faire un pas. Voilà. Et pour pouvoir faire ce pas, il ne faut pas sans cesse remettre en cause le fondement sur lequel on est en train de marcher. Il faut se lancer.
Et donc, pour le coup, là, il ne faut pas remettre en cause la présence de Jésus au milieu d'eux pour Thomas.
Exactement. Et je pense que les questions sont nombreuses sur comment cette présence se manifeste auprès des disciples, au milieu d'eux, sur qu'a-t-il pu se passer ? Aucun des évangiles ne répond sur comment ça s'est passé.
Oui, parce qu'on ne s'est pas arrêté dessus, mais les portes sont fermées à clé, ils sont enfermés, et Jésus vient. Et il se retrouve au milieu d'eux.
Tout à fait, mais je crois que les évangiles ont choisi de ne pas répondre à la question du comment.
Oui.
Et c'est peut-être ce saut dans l'inconnu, ce saut dans la foi que les disciples ont fait, et c'est ce saut-là auquel nous sommes invités, ne pas chercher à comprendre pourquoi et simplement constater. Il est là, il nous donne sa paix, ça nous permet d'avancer en confiance dans la vie.
Et du coup, allons-y. Il y a une relation possible là, quelles que soient les raisons pour lesquelles ou par lesquelles il est là, il y a une relation possible avec Jésus.
Tout à fait. Alors que Thomas cherche à démontrer, à prouver, à être sûr, à être rassuré, au fond, Jésus lui dit « Je suis là, allons-y ensemble ». Reviens à la relation et pas à savoir le pourquoi du comment sans cesse, qui t'empêche d'avancer et qui t'enferme dans des questions. Mais l'interpellation s'adresse aussi aux autres disciples. Arrêtez d'avoir peur et vivez.
C'est ça. Donc pour terminer cet échange autour de ce passage de l'évangile de Jean, qui termine l'évangile de Jean, quel serait ce que vous auriez envie de laisser ou de laisser à nos auditeurs ?
Cette interpellation que je fais mienne, qui m'est adressée aussi et que je pense qu'on peut adresser à chacun, c'est justement cette interpellation de Jésus à Thomas. Arrête de douter et crois. Allons-y, lançons-nous.
Alors, allons-y, lançons-nous. Merci beaucoup, Gérald Machabert.
Parce qu'il est là, nous pouvons regarder en face ce qui nous écrase. Parce qu'il est là, nous savons que le mal n'aura pas le dernier mot. Parce qu'il est là, nous recevons la paix et le pouvoir de pardonner. Parce qu'il est là, nous pouvons partager cette paix et ce pardon. Parce qu'il est là, nous pouvons prendre le beau risque de la foi. La paix soit avec vous, chers auditeurs. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant. Nous étions aujourd'hui avec le pasteur Gérald Machabert de l'Église protestante unie de France. Merci à Clotilde Pivin et à Éric Boisset pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Retrouvez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, je vous remercie d'ailleurs pour vos nombreux courriers qui nous encouragent et que nous recevons au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture, dans un instant à suivre le journal, et puis vous retrouverez Marc-Alain Wachnin pour Talmudic tout de suite après. Très bon dimanche à tous.